prenezlevirage.be. Partenaire professionnel, entreprendre avec les entrepreneurs.
Ça y est, grâce à la méthode d'auto-hypnose, en quelques semaines chez ABC Langue, j'ai appris à parler le néerlandais. L'auto-hypnose est une méthode rapide et très efficace pour apprendre et oser parler l'anglais, le néerlandais ou une autre langue.
ABC Langue.
736 74 36.
02
736 74 36.
La première.
Merci d'être avec nous dans Soir Première. Il est 19h. Tout de suite, le journal avec vous, Florence Urner. Bonsoir.
Bonsoir.
Et tout d'abord, l'audition aujourd'hui devant la commission à la Chambre du ministre de la Défense, Steven Van de Putte.
Une audition très attendue, car c'est bien une réduction drastique des effectifs qui est annoncée depuis quelques jours. Alors, si le ministre a confirmé cette mesure, il n'a donné aucun chiffre. Nous l'entendrons dans un instant. Un autre chiffre, par exemple, eh bien, c'est celui-ci. 36 millions de personnes seraient réduites en esclavage dans le monde. C'est en tout cas le chiffre révélé aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le rapport d'une organisation des droits de l'homme, et par esclavage, on entend traite des êtres humains, exploitation sexuelle ou encore travail forcé.
Un petit point route, Laurent Deboeuf, dites-nous si c'est encore compliqué ce soir.
Ben effectivement, blocage complet, hein, je vous le rappelle, suite à l'accident qui s'est produit entre un camion et une voiture et un camion en ciseaux sur le 411 Luxembourg-Bruxelles à hauteur de Dossou. Ce tronçon est carrément coupé au trafic au kilomètre 49. Circulation à l'arrêt, des files donc qui remontent toujours sur plus de 4,5 km en amont de ces difficultés en direction de la capitale. Une déviation via l'échangeur de Dossou est mise en place. On vous conseille de prendre le 42 vers Mons ou vers Liège et ensuite de faire demi-tour à la première sortie.
Et on commence donc, Florence, avec l'actualité politique et l'audition très attendue cet après-midi en commission de la Chambre de Steven Van de Putte, ministre donc NVA de la Défense.
Audition sur fond d'économie renforcée annoncée à l'armée belge, de rumeurs de fermeture de casernes ou de bases, de circonstances budgétaires très difficiles. Alors le ministre n'a voulu donner aucun chiffre, aucune information neuve sur un plan stratégique de l'armée qu'il compte présenter au gouvernement dans les 6 mois. Aucun chiffre selon lui. Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, eh bien, aucune décision n'a été prise. Je vous propose de l'écouter.
Au niveau des chiffres qu'ont donné de différents experts dans les médias, je ne vais pas les confirmer. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui que ce sera un nombre de ça. Parce que je ne sais pas. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, le débat peut être fait d'une manière sereine et productive. Quand on essaie de me dire, vous allez fermer ce caserne-là. Je peux vous assurer aujourd'hui, aucune décision n'a été prise, aucune, ni au nombre de personnel, ni à la fermeture des casernes, ni à rien d'autre. Hein, si on dit, dans l'accord de gouvernement, on dit on va décider sur le suivi de l'F-16, on va décider. Au niveau de Naval, on va décider ce quoi on va faire. Mais aujourd'hui, aucune décision n'a été prise. Je ne vais rien en dire.
Des propos recueillis par Fabien Van Eekhout. Et pour ce qui est de la fonction publique, eh bien là, le ministre a annoncé une méthode pour mesurer la charge de travail des fonctionnaires fédéraux. Cette nouvelle méthode sera opérationnelle en janvier 2016. Une filiale suisse de la banque britannique HSBC a été inculpée en Belgique pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. La banque est suspectée d'avoir aidé des centaines de clients belges, notamment des diamantaires anversois, à frauder le fisc par le biais de sociétés écrans basées au Panama et aux îles Vierges. Le préjudice pour l'État belge est estimé à plusieurs centaines de millions d'euros.
Ce constat, pour suivre Florence, l'esclavage moderne est toujours bien présent dans tous les pays du monde.
Oui, il toucherait près de 36 millions de personnes. C'est le constat posé par une fondation qui veut combattre le phénomène. On voit tout cela avec vous, Daniel Fontaine.
Il s'agit de la fondation Walk Free, une organisation créée il y a 4 ans par un mécène australien. Elle publie aujourd'hui son 2e rapport. La fondation considère comme esclavage moderne la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle, les mariages forcés, le travail forcé ou encore la servitude pour rembourser une dette. En Mauritanie, 4% de la population est en situation d'esclavage. Il faut dire que le statut héréditaire d'esclave y existe toujours. En nombre absolu, on recense la moitié des 36 millions d'esclaves dans le monde, dans 5 pays seulement, Inde, Chine, Pakistan, Ouzbékistan et Russie. Cela dit, aucun pays n'est épargné par le phénomène. Si la Belgique figure dans le bas du classement, la Fondation estime tout de même que 1500 personnes vivent chez nous en situation d'esclavage. Le rapport cite le cas de femmes nigérianes victimes d'exploitation sexuelle. Les meilleurs élèves où l'on compte le moins d'esclaves sont les Pays-Bas et l'Islande.
Dans le reste de l'actualité internationale, une enquête pour assassinat en bande organisée visant deux hommes a été ouverte en France. Il s'agit de deux Français qui auraient participé à la décapitation d'un travailleur humanitaire américain, Peter Kazig, et de prisonniers syriens par le groupe terroriste État islamique. Il s'agirait d'un jeune homme de 22 ans, Maxime Auchard, converti à l'islam et parti se battre en Syrie il y a deux ans, ainsi que d'un autre jeune homme dont l'identité n'a pas été révélée. Retour chez nous à présent, obtenir un meilleur lit en échange de faveurs sexuelles. Voilà ce qu'aurait proposé un ou des travailleurs du SAMU social à une SDF dans un centre d'abri de nuit. Un témoignage relaté par De Morgan. Le journal flamand rapportait aussi le témoignage d'une travailleuse sociale de l'association bruxelloise Chez nous, by Hans, qui affirme avoir entendu ce genre d'histoire au moins de trois femmes différentes ces deux dernières années. Le SAMU social, qui gère notamment le plan hiver à Bruxelles, se dit stupéfait par la nouvelle. Il a lancé une enquête interne, Pierre Van den Bulk.
Dans le Morgan, une femme sans abri raconte. En échange de relations sexuelles, on lui a proposé un emplacement un peu plus paisible pour dormir ou encore des draps propres. Certains travailleurs du SAMU social auraient-ils ainsi abusé de leur position et dérogé au code de déontologie de l'institution? Christophe Tillens, porte-parole du SAMU social.
De notre côté, nous allons lancer, comme je le disais, une enquête interne, non seulement auprès des coordinateurs de jour et de nuit, les coordinateurs des différents centres, les responsables d'équipe, les infirmières qui également ont aussi un rapport privilégié avec les femmes hébergées au SAMU social. Et nous allons aussi contacter notre partenaire Médecins du Monde afin de savoir s'ils sont au courant de tels faits qui ont été relayés par notamment l'ASBL chez nous.
Une ASBL avec laquelle le SAMU social a des réunions régulières, notamment pour la préparation du plan hiver. Voilà pourquoi il se dit ulcéré de n'avoir jamais été informé de ces témoignages.
À aucun moment, il n'a été mention de ces points qui sont pourtant d'une gravité de premier plan. Donc nous, on s'interroge sur le fait que la direction du SAMU social n'ait jamais été informée à une seule reprise de ces témoignages qui apparemment semblent légion et sur une période totale de deux ans.
Ce matin, le SAMU social a rencontré la travailleuse de l'ASBL chez nous qui a maintenu sa version tout en précisant qu'elle n'avait aucun élément concret concernant ce possible chantage sexuel, ce pourquoi elle n'avait pas jugé bon d'informer l'institution.
Plus de 2000 faillites en 2013 et des dizaines de milliers d'emplois perdus. Le secteur HoReCa a subi la crise de plein fouet. Pointé du doigt par ce secteur, les charges salariales parmi les plus lourdes d'Europe, des taux de TVA trop élevés ou encore des contrôles trop stricts et la prochaine obligation de se doter d'une caisse enregistreuse qui devrait empêcher le travail au noir ne devrait rien arranger. Le syndicat des indépendants lance donc un appel au secours. Si cette mesure, dit-il, est appliquée, elle tuera un tiers des entreprises de l'HoReCa. On voit tout cela avec Thierry Van Gulik.
Ils sont en colère, les restaurateurs, et ils le disent haut et fort, on veut leur mort et on les traite comme des quasi-criminels. Pour Jean-François Dondelet, secrétaire politique du syndicat des indépendants, la situation est vraiment inquiétante.
Quand on constate les chiffres sur l'année 2013, plus de 2000 faillites rien que pour le secteur HoReCa, il y a vraiment un malaise parmi l'immense majorité des petits exploitants qui, eux, sont matraqués de charges dans tous les sens.
Et pour eux, l'imposition d'une caisse dite intelligente qui contrôlera toutes les entrées et sorties de marchandises, mais aussi les heures prestées par le personnel, c'est la mort des entreprises les plus fragiles. Pour ce restaurateur à toit, impossible d'échapper au noir.
C'est une obligation de faire du noir pour survivre. Actuellement, c'est totalement impossible, vu les taxes qui sont en cours, c'est totalement impossible de s'en sortir.
Un avis que ne partage pas tout à fait Pierre-Nicolas Schwab, chercheur en marketing à l'ULB. Pour lui, les faillites ont aussi d'autres causes que les contrôles fiscaux.
Une mauvaise préparation généralement des porteurs de projets qui vont sous-évaluer la capitalisation de leur entreprise. Souvent, les porteurs de projets dans l'HoReCa ne font pas non plus d'études de marché.
Sans parler de localisation de commerce parfois totalement irréaliste. Quoi qu'il en soit, le syndicat des indépendants demande, entre autres, au gouvernement fédéral de reporter la mesure, le temps de s'y mieux préparer. Mais pour le secteur, l'addition sera de toute façon très salée.
Et à 19h09, l'actualité des marchés financiers en collaboration avec le journal L'Écho.
On va voir tout cela avec Jennifer Neal. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous revenez ce soir sur la chute de l'indice Nikkei ce matin à Tokyo, une chute de 3% qui ne figurait a priori pas au programme de la bourse japonaise.
Et oui, ce fut la douche froide pour les investisseurs à Tokyo. Aujourd'hui, l'indice Nikkei 225 a bien perdu 3%. Il avait pourtant touché un record historique il y a à peine 10 jours à 17 000 points. La bourse japonaise a reculé parce que l'économie du pays est retournée en récession. C'est une mauvaise surprise. Aucun économiste ne s'attendait à une contraction du PIB japonais entre juin et septembre. Mais cette récession technique est vue comme éphémère car elle va contraindre le gouvernement japonais à reporter sa hausse de TVA. La Banque Société Générale voit positivement ce report de TVA car la précédente hausse en avril a pesé sur l'économie japonaise.
Alors Jennifer, que faut-il retenir d'autre de la journée en bourse ?
Le BEL 20 a progressé de 0,23% à 3169,88 points. Le S&P 500 recule en ce moment de 0,17% à 2336,29 points. Et l'euro glisse de 0,57% à 1,245 dollars.
L'actualité des marchés financiers avec Jennifer Neal du journal L'Écho.
Merci Florence, 19h10 à suivre dans Soir Première. Un petit détour par le parc des Virunga, ce sera dans notre bande de curieux. On va aussi s'intéresser à une course étonnante. Il s'agit de grimper des escaliers le plus vite possible. Ça va se passer à Bruxelles et Gilles Coutegubur nous dira tout ça. C'est la bande de curieux, mais avant cela on retourne sur les routes parce que Laurent Deboeuf, sur la E411 notamment, ça reste fort compliqué ce soir.
C'est loin que l'on puisse dire. Donc, je vous rappelle, blocage complet suite à cet accident entre un véhicule et un camion en ciseaux. Donc, sur le 411 Luxembourg-Bruxelles, autour de Dossouze, tronçon est carrément coupé au trafic, donc au kilomètre 49. On relève toujours des fils sur plus de 4,5 km en amont de cette difficulté. Donc, si vous circulez en direction de la capitale, et sachez qu'une déviation est conseillée. Donc, à l'échangeur de Dossouze, on vous conseille de prendre le 42, soit vers Mons ou Liège, et faire demi-tour ensuite à la première sortie à Bruxelles. On a toujours des soucis aussi avec le chantier du boulevard de la Woluwe. Toujours une importante densité de trafic et de gros embarras de circulation dans ce secteur. Donc au carrefour formé entre la chaussée de Louvain et le boulevard de la Woluwe. Pour le reste, des files sont encore recensées aussi sur la petite ceinture du tunnel Rogier au tunnel Léopold II vers Kuckelberg. On a également quelques ralentissements encore recensés sur le ring à cette heure-ci. En extérieur, entre Vilvoorde et Grimbergen à hauteur de Wemmel vers Grand Bigard. En intérieur de Wezembeek et les quatre bras de Tervuren vers Waterloo. Une camionnette en panne sur le 40 Bruxelles-Liège à hauteur de Walsoutem. Sortie numéro 28, le passage est compliqué dans cette bretelle de sortie en direction de la cité Ardente. J'apprends à l'instant qu'un autre véhicule est signalé en panne dans le tunnel de l'OTAN. Donc c'est à Bruxelles, c'est la bande droite qui est encombrée vers le centre. Et puis une perte de chargement qui nous est signalée également sur le 40 Bruxelles-Ostende à hauteur de Zouénard. C'est en direction du littoral.
Bracelet VivoFit, sa pile dure un an pour que votre forme dure toujours. Garmin. Être prêt à tout, ne reculer devant rien et s'en donner les moyens, c'est ça, avancer. CBC Banque Assurance, décider d'avancer.
Soir Première,
jusqu'à 19h30,
avec Arnaud Reusson.
Et merci donc d'être toujours avec nous dans Soir Première pour notre bande de curieux. C'est le moment où on se propose, comme chaque soir, de vous surprendre, d'élargir vos horizons et même de vous faire voyager. Pour cela, vous pouvez compter sur notre équipe. Avec nous ce soir, un raconteur d'art. J'aime bien vous présenter comme ça, Pascal Goffaut. Bonsoir.
Bonsoir, Arnaud.
Et vous allez nous parler d'un artiste belge qui s'expose en ce moment.
Oui, et qui propose un dessin animé, sensible, subtil, et vous faites votre propre cinéma en voyant les images animées de Hans op de Beek.
Vous nous en parlez dans quelques instants. Avec nous aussi, celui qui nous fait voir souvent le sport autrement. Bonsoir Gilles Goudgeveur.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef notamment du magazine Zatopek. Et une drôle de course au menu ce soir.
On va parler de course à pied effectivement, mais de course à pied verticale, ou en anglais de tower running, qui signifie qu'il faut escalader des buildings très hauts le plus vite possible par la cage d'escalier.
Par la cage d'escalier, heureusement. Mais avant toute chose, on va vous emmener en avant-première du jardin extraordinaire dans le parc des Virunga en République démocratique du Congo. Et pour cela, vous l'avez peut-être deviné, on va rejoindre quelqu'un qui est régulièrement avec nous dans la bande de curieux et qui nous fait souvent voyager. C'est Tanguy Dumortier, chef d'orchestre du jardin extraordinaire qui se trouve en plein tournage donc du côté du parc des Virunga. Bonsoir Tanguy.
Oui, bonsoir Arnaud. Alors je vous le dis tout de suite, je vais vous décrire un petit peu le paysage. Mais tout d'abord, je vous signale qu'on est en plein milieu de l'Afrique, donc j'ai un petit décalage téléphonique. Et donc je vais vous dire, à vous, chaque fois que je vous rends l'antenne, ce sera plus simple pour éviter qu'il y ait des blancs. C'est comme ça qu'on fait par ici pour communiquer quand on sait qu'il y a un petit décalage dans le téléphone, ce qui arrive souvent. Donc à vous Arnaud.
Ben voilà, on prend l'habitude. Alors Tanguy, je vous pose ma première question. Dites-nous un peu où vous êtes, racontez-nous un peu le décor qui vous entoure dans ce parc des Virunga.
Alors j'espère vous faire carrément rêver, je suis, ma tente est dans mon dos, elle est très confortable, rassurez-vous, j'ai devant moi un paysage à 180 degrés, tout à fait à ma droite j'ai un orage qui arrive et le ciel est zébré d'éclairs, tout à fait à ma gauche j'ai un volcan éteint qui est absolument fabuleux, qu'on appelle le Mikeno, et qui culmine à plus de 4 mm et dont la forme très caractéristique se découpe sur le ciel de ce début de nuit, et puis devant moi, à environ 20 et 25 km, j'ai deux volcans en activité, dont je vois le cratère rougeoyer au loin. Je vois pas la lave directement, mais je vois, comme vous verriez de loin une autoroute, eh bien moi je vois rougeoyer donc ces deux cratères, et tout autour de moi, vous entendez peut-être l'orage arriver et tous les insectes autour qui grouillent. À vous Arnaud.
On vous entend bien, hein, Tanguy, mais par contre on n'entend pas quand même les orages. Superbe région, mais dangereuse, hein, pas seulement à cause soit des orages, soit des volcans. C'est une région qui est aussi ravagée par la guerre.
Alors c'est une véritable poudrière, hein, malheureusement, depuis plus de 25 ans, traversée par, on va dire, les résidus de tous les conflits régionaux, que ce soit depuis les conflits en Ouganda, que ce soit depuis le génocide au Rwanda, que ce soit depuis les guerres congolaises qui se sont tues il y a à peine quelques mois ici. Et donc effectivement, oui, c'est une région où c'est pas bon s'aventurer au hasard, il vaut mieux être encadré, ce qui est tout à fait mon cas ici. Mais dans tous ces problèmes, eh bien, le parc des Virunga, c'est vraiment une merveille, on va dire un phare, on espère, pour l'avenir. Il est géré par un directeur qui est belge, même si il a étudié en Angleterre et il n'est pas né avec une grande partie de sa vie, en tout cas au Kenya, qui est Manuel de Mérode, qui a été blessé d'ailleurs ici il y a quelques mois, qui a été blessé par des coups d'armes à feu. Et donc on est dans une situation qui est à la fois extrêmement explosive, qui est beaucoup plus calme, hein, depuis quelques mois. Et donc la bonne nouvelle aussi pour ce parc, eh bien, c'est que le tourisme commence à revenir, parce que comme je vous l'ai décrit, et demain donc on s'aventure dans les forêts pour aller rencontrer les gorilles. C'est une région absolument splendide à voir, évidemment, à découvrir, à vous.
Alors bon, parlons justement de ça, hein, de cette faune, de cette flore, de ce qui est quand même un des plus grands et un des plus anciens parcs d'ailleurs d'Afrique.
C'est carrément le plus ancien parc d'Afrique. Il était appelé Parc Albert, puisque c'est le roi Albert qui avait décidé d'établir ce parc en ayant vu l'exemple du Yellowstone, qui était le premier parc national au monde. Et lui a créé ici ce qui était le Parc Albert, qui est devenu le parc des Virunga, qui est véritablement extraordinaire. Le mont n'est pas trop faible, il fait 300 km du nord au sud, entre 20 et 25 km de large. On y trouve tout au sud, dans la partie où je suis, ça démarre sur le lac Kivu, qui est un de ces grands lacs africains qui est dans la région du Rift. Et puis on trouve ces volcans en activité qui sont devant moi, sur les pentes desquels on retrouve des chimpanzés et des gorilles. Et donc c'est une région dans laquelle il y a trois espèces d'hominidés différentes, ce qui est quand même extrêmement intriguant. Et puis en montant plus au sud, on va se retrouver dans des savanes ouvertes avec des lions, des éléphants. Et puis encore plus au nord, on va découvrir les monts Ruwenzori qui culminent à plus de 5100 mètres avec des glaciers. Donc vous imaginez le contraste de cette région qui concentre à peu près toutes les merveilles qu'on peut imaginer de l'Afrique. Et moi c'est un parc où j'ai tourné pour la première fois il y a 4 ans et dont je suis tombé absolument amoureux, parce que c'est absolument splendide et c'est chaque fois de nouvelles découvertes et chaque fois de nouvelles merveilles. Demain, on rencontre donc les gorilles de montagne, comme je vous disais, une population, il en reste 800-850 environ, et puis dans quelques jours, on grimpe au sommet d'un volcan pour admirer son lac de lave. C'est le grand lac de lave en activité du monde, vous imaginez le spectacle absolument splendide, et on passe la nuit au sommet pour admirer ça et pouvoir rester ébahi toute une nuit. C'est vraiment une aventure que je souhaite à tout le monde dans sa vie, à vous.
Et on imagine qu'on découvrira ça, hein, dans quelques semaines en images, puisque c'est pour là que vous êtes là-bas pour un tournage, évidemment, pour le Jardin Extraordinaire. Vous ne nous proposerez pas ça encore dès ce dimanche, il faut aller découvrir tout ça, et puis après tout monter, mais vous serez quand même en Afrique dans le Jardin Extraordinaire, brièvement, Tanguy, de ce dimanche.
Voilà, ce sera même pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, le reportage sur les Virunga.
Ensuite, alors, il va falloir attendre. C'est bien que vous ayez pu déjà nous le décrire en radio, alors.
Exactement, vous l'avez vraiment en avant-première. Mais effectivement, on voyage en Afrique ce dimanche dans le Jardin Extraordinaire, dans un film dont je suis très fier, qui est aussi une production, une coproduction du Jardin Extraordinaire, qui s'appelle Afrique Extraordinaire, le continent des couleurs. Afrique Extraordinaire, c'est une série du Jardin Extraordinaire qui est de la production propre du Jardin Extraordinaire. Et le continent des couleurs, ça décrit dans le détail, c'est une balade à la fois poétique et scientifique sur la couleur des animaux et des paysages. On est parti du principe qu'on a toujours appelé l'Afrique le continent noir, et que c'est une grave erreur parce qu'il est rempli de couleurs, et donc vous apprendrez normalement pourquoi les zèbres sont rayés, ou en tout cas les théories qui expliquent pourquoi les zèbres sont rayés, et aussi alors des choses étonnantes sur les caméléons par exemple, sur les couleurs, ou sur les paysages du désert du Namib. C'est un documentaire pour lequel on a parcouru beaucoup de paysages, et c'est pour ça que je vous disais que ça pourrait prendre plusieurs années, parce qu'on essaie de thésauriser de la matière pour à un moment vous proposer les meilleures choses possibles et qui recoupent et qui agitent le mieux nos cerveaux de curieux. À vous Arnaud.
Eh bien voilà, vous aurez bien agité les nôtres ce soir, les couleurs de l'Afrique, donc ça ce sera à découvrir dès ce dimanche. Et puis pour les images du parc des Virunga, ben on patientera alors, mais on a déjà les images dans les oreilles grâce à vous Tanguy. Ce soir, on va poursuivre avec une autre forme d'aventure, hein, avec vous Gilles Goudguebeur, puisque vous nous parlez d'une course qui va avoir lieu dimanche prochain à Bruxelles. C'est la 4e édition d'une course étonnante étonnante, hein, puisque l'idée, c'est d'arriver le plus vite possible au sommet d'une tour en empruntant la cage d'escalier, évidemment pas l'ascenseur.
Ça se passe à l'hôtel Sheraton, donc Place Roger, à Bruxelles. Effectivement, vous l'avez dit, c'est la 4e édition. La tour fait 100 mètres de haut, 30 étages, et il faut y aller le plus vite possible. Il y a différentes techniques. Il y en a qui courent marche par marche, il y en a qui sautent 2 marches par 2 marches, 3 marches par 3 marches pour les plus costauds. C'est extrêmement éprouvant, et je peux vous en parler parce que j'ai fait les 3 premières éditions, et j'en ai encore les jambes qui flageolent et la tête qui tournicote, parce qu'évidemment, en plus, on tourne toujours dans le même sens. Donc, quand on arrive en haut, non seulement on était essoufflé, mais en plus, on a le mal de mer.
Et on imagine que c'est un chrono, hein, que c'est un contre-la-montre, que vous n'êtes pas à 2 ou 3 à essayer de vous poursuivre dans la cage d'escalier.
Donc, on est là dans le cadre d'un circuit qui s'appelle le Tower Running, et il y a différents protocoles de course. Il arrive, par exemple, qu'on fasse partir les coureurs par grappe, et donc là, en plus de grimper le plus vite possible, il faut jouer des coudes pour se faire une place dans le peloton de tête.
Puisque Bruxelles n'est pas la seule capitale à proposer donc ce genre d'épreuve, on en trouve d'autres dans d'autres grandes villes un peu partout sur Terre.
Là où il y a des tours, il y a des Tower Running à Tokyo, à Madrid, à New York, au Qatar, à Paris l'année prochaine, évidemment ça va se dérouler, ce sera la première.